Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co et BFM Tech dédiée au streaming. C'est le Festival de Cannes, en ce moment il bat son plein évidemment sur la croisette comme chaque année à la même période, mais comme ça arrive régulièrement à Cannes, les films en compétition sont éclipsés par une actualité, une polémique. Parfois là c'est plutôt un débat sur la place de Canal+, propriété de Vincent Bolloré, dans le cinéma français, une pétition qui a mis le feu aux poudres juste avant le début du festival. Il y a ceux qui dénoncent l'emprise du milliardaire d'extrême droite sur l'écosystème complet, on va dire, du cinéma français. Il y a ceux qui soutiennent au contraire son engagement depuis des années, des décennies, pour le financement de ces mêmes films. Et ceux qui font un peu l'autruche au milieu de tout ça en attendant que ça se tasse et que la tempête passe. Ça pose tout ça pas mal de questions sur le financement du cinéma, mais aussi des séries, puisque c'est devenu un tout depuis quelques années. On va parler de tout ça avec mes deux invités du jour. D'abord, Guillaume Boutin. Salut Guillaume.
Salut Clément.
Comment ça va?
Écoute, très très bien.
Co-fondateur de Sens Critique, faut-il le rappeler, habitué de l'émission. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Et puis une nouvelle tête que je suis ravi d'accueillir, c'est Estelle Aubin. Salut Estelle.
Bonjour.
Comment ça va?
Bien.
Toi, t'es journaliste au service culture de BFMTV.com, spécialiste du cinéma. Ah bon, tu n'es pas d'accord. Mais ça nous arrange, on va dire. Au moins, tu es là aujourd'hui, mais tu suis tout ça évidemment de près, parce que c'est quand même un gros dossier pour le cinéma français, ce dossier Canal+. Merci à tous les deux donc, d'être avec moi aujourd'hui. On va passer direct au débat de la semaine. C'est parti. Un peu de contexte, donc tout est parti d'une pétition publiée le 8 mai dans Libération pour dénoncer l'emprise de Vincent Bolloré sur le cinéma via évidemment Canal+ et sa filiale de distribution Studio Canal notamment. Il y avait 600 professionnels du cinéma qui avaient signé au départ, ils sont maintenant plus de 2000. Il y a des actrices, des réalisateurs, des scénaristes, des cadreurs, des monteuses, des maquilleuses, des ingénieurs du son, bref, à peu près toutes les professions de l'audiovisuel sont représentées. On ne va pas lire la pétition en entier, mais en gros, ils dénoncent dedans la guerre civilisationnelle qui est menée par Vincent Bolloré. Ils alertent sur le risque d'une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Voilà, je les cite. Je voulais qu'on parle déjà du timing de cette pétition. Pourquoi maintenant, parce que ça fait quand même des années que Vincent Bolloré possède Canal+, qu'il est le grand argentier, on va dire, du cinéma français. On voit le logo Studio Canal ou Canal+. Devant quasiment quoi, les 80% des films français, on a l'impression qu'il y a celui-là et celui de France Télévisions globalement. Pourquoi le monde du cinéma, il se réveille maintenant, Estelle?
Déjà, parce qu'il y a eu l'affaire Grasset très ouais. récemment. On sait que Bolloré, il a racheté le JDD, il a changé sa direction, il a fait pareil avec Grasset,
ouais.
pareil avec iTélé qui est devenu CNews. Il y a quand même un moment fort où Bolloré est dans l'actualité. Mmh. On est à Cannes, c'est bien de commencer Cannes avec une tribune, c'est toujours la tradition.
Tout le monde parle que de ça, c'est de la promo gratuite un peu.
Ouais,
quoi.
C'est ça, il faut avancer aussi ses positions politiques à ce moment-là, on est dans l'agenda médiatique, et il y a évidemment la question UGC.
Ça c'est la grosse nouveauté, on va dire, du côté de Bolloré.
Oui, c'est ça, c'est que depuis l'automne dernier, il a racheté 34% des parts d'UGC, qui est le troisième exploitant français. C'est 500 salles, beaucoup de cinéma. Donc si Bolloré rachète UGC, ce qu'il compte faire d'ici
2028... Qui est effectivement le plan de le racheter à 100%,
ouais.
quoi.
Ouais, d'ici 2028, ça va arriver très vite. Ouais.
Ça voudrait dire qu'on aurait en fait un acteur qui serait finalement le financeur, le distributeur et l'exploitant de salles, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il exploiterait toute la chaîne...
Plus le diffuseur
français.
Avec Canal+.
Plus le diffuseur dans un second temps sur Canal+. Ça rendrait Vincent Bolloré tout puissant sur le cinéma français. C'est ça qui pose problème aujourd'hui pour le monde du cinéma, de l'audiovisuel.
Disons qu'il l'est déjà, en fait.
Ouais.
C'est vrai qu'on ajoute une dernière brique qui est celle de la distribution en salle. Mais il l'est déjà, il l'est depuis longtemps, depuis presque une dizaine d'années. Donc oui, c'est sûr que ça peut faire peur et ça fait d'autant plus peur, tu le disais... Jusqu'à maintenant, en tout cas, Vincent Bolloré, quand il a racheté des entreprises dans le secteur des médias ou de la culture, il a changé la ligne éditoriale, il a changé les équipes dirigeantes, il a changé toute la direction. Donc aujourd'hui, forcément, il y a énormément de craintes. Et si la profession veut lancer un appel, évidemment, le Festival de Cannes, c'est le meilleur timing de l'année. D'ailleurs, on notera, c'est marrant, j'y repensais, vous noterez que depuis 2 ans, 3 ans, il y a beaucoup moins de sujets politiques au César.
Oui.
Alors que normalement, on a été habitué quand même pendant des années à ce qu'il y ait toujours des prises de parole politiques oui, oui. assez engagées. Et depuis 2-3 ans, parce que je rappelle que c'est Canal+, le diffuseur de la cérémonie des Césars, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de prises de parole.
Le sujet, c'est effectivement débordé sur le Festival de Cannes, qui a toujours été malgré tout une tribune un peu politique. Bon, évidemment, on ne va pas reparler du Festival 68, qui est un peu le classique du, quand on parle de ces sujets-là. Mais à chaque année, effectivement, tu disais, il y a un peu une tribune, une prise de parole, etc., envers certaines choses. Là, on a vu par exemple qu'à Cannes, ça a commencé très fort, puisque à chaque fois qu'il y avait un film produit par Canal+, dès que le logo apparaissait au début de la projection, toute la salle sifflait, ce qui a fait aussi beaucoup de bruit. Mais ça arrive régulièrement, il y avait eu ça avec Netflix aussi il y a quelques années, quand Netflix avait diffusé son premier film au Festival de Cannes, tout avait été sifflé, machin. Bon, voilà. Aujourd'hui, ça s'est un peu normalisé.
Fini, ouais. Ouais.
Je vais poser la question peut-être un peu naïvement. Est-ce que ce serait grave que Vincent Bolloré rachète les cinémas UGC en soi ?
S'il contrôle l'ensemble de la chaîne de production, il peut avoir un impact très fort sur la filière et imprimer sa ligne idéologique qu'on sait d'extrême droite sur les films, sur toute l'industrie. En tout cas, c'est ce qui inquiète les signataires de cette tribune.
Maintenant, effectivement, ça restera à prouver sur le long terme. La Cannes, je disais, donc, la pétition a fait beaucoup parler à Cannes, évidemment. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait pour nourrir le débat d'une conférence de presse, celle du film L'Inconnu, qui est en compétition cette année, film français, qui est réalisé par Arthur Harari, qui fait partie des signataires de cette pétition. Il explique pourquoi il a signé, justement, on l'écoute.
Le fait que ce groupe soit... cette entreprise soit au sein d'un groupe large qui est propriété de Vincent Bolloré et qui concentre de plus en plus un nombre assez étourdissant d'organes de presse, de télévision, l'orientation est très très clairement à l'extrême droite, qu'il fallait nommer cette chose-là, quand quelque chose n'est pas dit, elle pourrit et voilà, donc c'est pour ça que j'ai signé. Pas forcément par adhésion avec chaque terme de la tribune, mais voilà.
On sent qu'il marche un peu sur des œufs. Il se justifie presque quelque part d'avoir signé avec cet argument du on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est un peu ça. En gros, je signe maintenant pour que si demain la ligne éditoriale de Canal+, entre guillemets, sur les films, etc., s'extrémise, au moins j'aurais alerté. J'ai l'impression qu'ils se couvrent un peu, ces réalisateurs ou ces scénaristes, non, c'est pas ça.
C'est compliqué de se mouiller. C'est très compliqué, moi, je pense, d'autant plus que jusqu'à maintenant, Canal+, il n'y a pas eu de signaux comme il y a eu sur les autres médias. Donc, on est quelque part un peu dans un procès d'intention,
ouais, c'est ce que dénoncent aussi les gens qui soutiennent évidemment, Vincent Bolloré dans cette histoire.
Et quelque part, d'ailleurs, quand on écoute... j'ai écouté un petit peu les médias de la sphère Bolloré depuis deux jours. Pour eux, c'est du pain béni, quoi. C'est tout le cinéma de gauche, c'est tous les gauchistes et les wokistes qui se mobilisent. Donc là, je pense qu'à travers cette tribune, ils ont remis une belle pièce dans la machine, en tout cas. Mais il ne faut pas oublier un truc quand même, c'est que Canal+ a des obligations. C'est-à-dire que ce financement, c'est une obligation légale, réglementaire, pardon, qui lui permet de diffuser ses films très tôt par rapport à ses plateformes concurrentes. Donc, on peut penser que demain, s'ils ont une orientation éditoriale, en tout cas aujourd'hui, ils auraient du mal à la mettre en place par rapport à leurs obligations réglementaires de toute façon. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, à un moment, c'est aussi à l'État de garantir, en tout cas au ministère de la Culture, de garantir une certaine neutralité, un certain éclectisme.
Via le CNC, notamment.
Via le CNC, notamment, mais aussi le ministère de la Culture. Mais je retourne encore le truc. Après, voilà, on voit aussi que les médias sont tenus à une certaine pluralité, notamment les chaînes de la TNT.
Bien sûr.
Je laisse tout le monde juge de la pluralité des opinions d'une chaîne comme CNews, par exemple.
Et on renvoie ça à l'ARCOM, qui, pour le coup, a traité le dossier plusieurs fois.
Je pense quand même qu'il y a quand même quelques signaux rouges envoyés par Maxime Saada, le patron de Canal+. Il y a eu des échos sur le film Grâce à Dieu de François Ozon. Comme quoi Bolloré n'avait pas envie d'investir sur ce film. Pareil pour...
C'était un film, on le rappelle, sur les violences sexuelles.
Oui, sur l'affaire Prena, ce prêtre accusé de violences sexuelles à Lyon. Il y a eu Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, En guerre de Stéphane Brisé. Et selon Christophe Honoré, Bolloré aurait dit pas de syndicalisme, pas de PD. C'est quand même quelque chose. Et là, il y a le film de...
ligne, effectivement, d'extrême droite, pour le coup.
Il y a le film de Bertrand Bonello, qui est sur le pape. Et pareil, il y a eu quelques échos comme quoi Bolloré n'avait pas envie de mettre de l'argent dans ce film.
Donc il y a des choix qui sont faits quand même à un moment.
Il y a eu Sacré-Cœur aussi. Ouais. Sacré-Cœur, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce film pro-chrétien qui met en valeur la chrétienté. et qui a fait beaucoup de bruit parce que qui a été beaucoup relié par le JDD, par par tous les médias, CNews, ouais. Et qui ont fait la promotion de ce film qui avait été promu par par Bolloré, quoi.
D'accord, donc effectivement, il y a une ligne qui existe, même si elle n'est effectivement pas visible tous les jours. Il y a plein de films qui sont produits par Canal+, qui, alors Maxime Sada évoque notamment à chaque fois l'histoire de Souleymane, qui est l'histoire de cet immigré qui traverse l'Afrique pour rejoindre l'Europe, qui est effectivement plutôt traité, on va dire, avec un point de vue de gauche, si, je ne sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, mais voilà, il y a de tout quand même malgré tout chez Canal, mais effectivement, c'est aussi ce que disait un peu Arthur Harari, c'est que cette ligne extrême droite chez Bolloré, on la connaît. Est-ce qu'elle va s'appliquer au cinéma? C'est aussi là-dessus qu'ils veulent alerter. Peut-être c'est aussi, non pas qu'ils pensent agir, mais peut-être se dire, on va peser sur les pouvoirs publics, ce que tu disais, le ministère de la Culture, peut-être essayer de les pousser à agir pour mettre des garde-fous. C'est peut-être ça aussi l'idée. Il y a des chiffres quand même qu'il faut donner, parce que là, on parle de ligne éditoriale, on parle de ligne idéologique, mais Canal+, c'est aussi des chiffres économiques hyper importants dans le cinéma. C'est le premier financier du cinéma français depuis longtemps. Quand on parle de Canal+, on va parler du groupe Canal, hein, de manière générale, puisque ça englobe à la fois Studio Canal, qui s'occupe de la distribution, mais aussi OCS, Ciné+, qui sont une autre branche qui permet de financer le cinéma. L'an dernier, ça représentait 160 millions d'euros, ce groupe d'investissement pour les films d'initiative française. C'est comme ça qu'on les appelle. Il y en avait 189 en tout qui ont été financés. Donc, c'est parfois des toutes petites sommes, mais ça suffit quand même parfois à monter un film indépendant. En France, un film indépendant, ça ne coûte pas 10 millions d'euros comme aux États-Unis. Hein, ça coûte quelques centaines de milliers, voire 1 ou 2 millions d'euros.
Quelques millions
d'euros.
Ouais, 3 millions.
Allez, dans les beaux films. Donc, malgré tout, quand on est Canal+, et qu'on met ne serait-ce que 500 000 dans un film, ça peut faire exister un petit film indépendant.
C'est plus que ça, pardon, je peux me permettre.
Vas-y, je t'en prie, Guillaume.
C'est que c'est surtout, en fait, aujourd'hui, un producteur qui va monter un film, il a plusieurs guichets, il y a plusieurs personnes qui financent le film. Le premier guichet sont les chaînes de télé, effectivement. Ouais. TF1 sur des grosses comédies, France Télé ou Canal, alors Canal surtout, France Télé plutôt un peu plus sur de l'auteur, etc. Et le début de sa chaîne de financement va très souvent commencer par les chaînes de télé. Donc, si on démarre sans chaîne de télé, ça va être très dur derrière d'aller chercher des Sofica, ça va être très dur d'aller chercher les régions, etc. Enfin, tous les acteurs qui vont financer. Donc, au-delà même du montant, c'est aussi
c'est la première brique,
quoi. C'est la structure du financement derrière.
Et que ça peut effectivement faire exister un film ou ne pas le faire exister, puisque s'il manque les 500 000 ou les 800 000 que peuvent mettre parfois Canal sur un petit film, ça peut tout changer. Si on le rassemble, tout ça, c'est plus de 40% des dépenses des diffuseurs français à lui seul. Le groupe Canal, c'est assez énorme. Est-ce qu'on peut dire que les signataires ont pris des risques en allant s'attaquer à Canal, puisque c'est quand même leur... est-ce que ce n'est pas mordre la main qui les nourrit, quoi? C'est ça que j'ai pas envie de dire naïvement.
Moi, je pense qu'ils ont pris des risques, qu'ils n'ont pas forcément mesuré les risques. Ouais. Ils ont signé cette tribune comme on signe des tribunes.
Oui, en fait, au fond, cette tribune, c'est un simple formulaire. Hein.
Oui, je pense, on leur a envoyé, ils ont signé.
On met son nom, machin.
Mais je pense qu'ils ont pris des risques parce que Maxime Saada s'est vexé. Et du coup, il a répondu fermement en disant qu'il allait boycotter tous les signataires de cette tribune. Et franchement, c'est une annonce... une annonce qui fait énormément scandale. Ça peut changer l'économie du cinéma si vraiment tous ces signataires... Maintenant, on est à plus de 2000 signataires.
C'est énorme.
C'est énorme. Si tous ces signataires-là ne travaillent plus chez Canal, mais où ils vont travailler? Il leur reste France Télé. Mais France
Télé, sûr, mais...
Là, il faut imaginer que du coup, Canal met à peu près 160 millions dans le cinéma en ce moment. Avant, c'était 220 millions, donc c'était beaucoup plus. France Télé, c'est 60 millions maximum et on réduit les budgets de l'audiovisuel public. Donc, c'est pas voué à augmenter.
Il y a beaucoup de producteurs qui ont déjà alerté sur le fait que France Télé se désengageait un peu plus régulièrement.
Après, il reste Arte, mais Arte, c'est des sommes bien moindres également.
Oui, et pour des projets
d'ampleur. TF1, M6, c'est plutôt des comédies populaires, donc c'est pas le même cinéma d'auteur. Donc, je pense que tous ces signataires-là, s'ils travaillent plus avec Canal, avec qui ils vont travailler, quoi?
Et d'autant que dans ces 2000 signataires, alors il y a quelques noms connus, évidemment, qui servent de vitrine et qui font un peu porte-parole. Il y a Juliette Binoche, Swann Arlo, Charles Berling, Blanche Gardin, Adèle Haenel, Garance Marillier, Anna Mouglalis, pour les citer, Bruno Solo, Jean-Pascal Zadi, voilà, ça c'est un peu les gros noms. Ce n'est pas non plus des superstars, sans vouloir leur faire offense. Ce n'est pas Jean Dujardin, Adèle Exarchopoulos, c'est pas Gilles Lelouch, c'est pas des gens qui sont capables de monter un film tout seul sur leur nom, j'ai envie de dire, ou d'attirer les gens tout seul sur leur nom. Est-ce que malgré tout, ces stars-là peuvent faire pencher la balance? Parce que je disais, ça c'est allez, quoi, une vingtaine de noms sur 2000. Le reste, c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est des cadreurs, c'est des ingé-sons, des gens qui sont payés pas grand-chose pour faire leur boulot, contrairement aux stars, et qui, eux, mettent tout en risque. Est-ce que ces stars peuvent aider, justement, à porter cette pétition?
Moi, je ne suis pas certain. Enfin, je pense que, déjà, il faut comprendre qui c'est Maxime Saada. Maxime Saada, c'est quelqu'un de très, très dur en affaires. Il l'a démontré depuis des années avec Canal. Et en termes de négo, d'ailleurs, il gagne toujours à la fin. On se souvient de sa grosse négo avec TF1. Il ne se met pas d'accord avec TF1. Il coupe le flux. Voilà. Et puis, il laisse comme ça. Et puis, il attend que TF1 revienne. On l'a vu avec la Fédération de foot. On l'a vu avec le rachat d'OCS. On l'a vu quand ils ont renégocié les droits, même avec les studios américains. Quand on affronte Maxime Saada, sur le streaming aussi. Quand on arrive face à Maxime Saada, il faut arriver costaud quand même. Moi, je vois ça plutôt comme un, espèce de, vous savez, une réunion de famille où tout le monde s'engueule. Et alors là,
la belle et grande famille du cinéma français, c'est ça?
Non, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois ça un peu comme une grosse engueulade. Et là, tout le monde y va et tout le monde se lâche et tout le monde s'énerve. Je vois pas une seule seconde Maxime Saada, enfin, à travers Maxime Saada, Canal Plus boycotter des milliers d'intervenants, parce qu'on a besoin de ces métiers. Genre, vous imaginez, à chaque fois qu'il y a un projet, il y a un mec,
comment ils vont faire,
etc. Moi, je pense que c'est plutôt un coup de semonce et c'est plutôt un avertissement qui dit, en gros, là, les gars, vous avez déconné. C'est vrai qu'à côté de ça, alors, il soutient aussi ses propres équipes qui, je le disais, en tout cas, les équipes historiques, les acquisitions chez Canal et notamment Laurent Acide, jusqu'à maintenant, sont quand même très respectés par la profession. Et lui, il arrive plutôt en mode, attendez, si vous voulez la guerre, on va faire la guerre. Moi, je m'en fous. Et n'oublions pas surtout un dernier sujet, je trouve, qui est hyper important, que j'ai vu en travaillant un petit peu cette émission. En fait, Canal+ fait le gros de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité à l'étranger, notamment en Afrique. Le territoire français est un territoire évidemment important, historique, mais...
Mais petit, entre guillemets.
Enfin, petit en tout cas. C'est la croissance de Canal+ aujourd'hui ne se fera pas ou ne se fera plus en France. Ils ont, je crois, une dizaine de 8 millions, je crois, d'abonnés tout cumulé. Bon, voilà, il y a un moment, la population française, elle va pas grossir. Donc aujourd'hui, il peut aussi se permettre de jouer des bras de fer pendant peut-être un an, deux ans, et de montrer aux gens que voilà, nous enquiquinez pas. Si vous voulez m'affronter, moi je suis prêt et je suis peut-être plus fort que vous.
On va écouter justement un deuxième extrait qui illustre un peu ce. Ce bras de fer et on va dire la prudence des gens du milieu, justement pour éviter que ça parte en réunion de famille et que plus personne ne se parle pendant des années, et justement d'essayer de réconcilier tout le monde. C'est un autre extrait d'une interview qui s'est déroulée à Cannes avec l'AFP. Interview d'Adèle Exarchopoulos et Sarah Giraudeau, deux actrices assez importantes dans le paysage du cinéma français. Vous allez voir, elles sont très, très mesurées.
C'est la liberté d'expression.
Non, puis c'est des réactions aussi à chaud, c'est aussi des réactions pour faire peur, c'est peut-être des choses intimidantes, peut-être, mais voilà, il faut chacun faire des compromis de chaque côté, mais je pense qu'il faut essayer de continuer à réussir à s'entendre, parce que c'est quand même Canal+, finance une grande partie du cinéma et des films qui vont peut-être pas forcément dans leur lignée de penser aussi, donc ça veut dire qu'il y a une petite une liberté qui peut continuer quand même à exister. C'est juste dommage de pas tout flinguer, quoi.
Ça regarde un peu ses chaussures. On précise que les deux n'ont pas signé la pétition. Elles sont en compétition à Cannes pour un film par ailleurs. Sarah Giraudeau évoque entre lignes les films, on les a financés par Canal+, qui ne sont pas dans la ligne d'extrême droite de Bolloré, plutôt des films de gauche. Donc elle parle de compromis aussi à faire des deux côtés après cette montée au créneau de Maxime Saada qui a crisper tout le monde, de dire voilà, je boycotte tous ceux qui signent. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de tout ça d'une façon un peu raisonnée, de se remettre à table et de reparler, si on reprend l'image de Guillaume, de remettre toute la famille autour de la table et de reparler tranquillement?
J'espère, mais juste je voulais revenir, je pense pas à une réaction à chaud de Maxime Saada. Il a réagi donc dimanche dernier à la Tribune, c'était en début de semaine, je crois, mardi.
C'était le 8 mai, jours. C'était en fin de semaine, c'était le vendredi.
C'était le vendredi, il y a eu une semaine. Quand même.
Oui, il a eu le temps de potasser son truc. Ouais. C'est pas un truc à chaud.
Je pense qu'il a dû parler avec Vincent Bolloré. Enfin, j'en sais rien, mais on peut supposer ça. Et je crois pas à une réaction à chaud. Je crois vraiment à une menace explicite pour inciter à toute la grande famille du cinéma français à se calmer et à rentrer un peu dans les ordres. Mais oui, sinon, par ailleurs, j'ai un peu l'espoir que toute la famille peut se réunir. Donc la SRF, la Société des réalisateurs français, a essayé de créer un peu cette réunion et du coup d'inciter à une médiation.
Ouais.
C'est quand même un gros syndicat de cinéastes, mm-hmm. plus de 500 cinéastes, c'est quelque chose quand même. Donc moi, j'ai bon espoir qu'ils réussissent à se parler, que de toute façon, Maxime Saada ne peut pas se passer de plus de 2000
oui, personnels. Oui, techniquement, c'est impossible aujourd'hui.
Oui, voilà, tout simplement.
Enfin, autant se passer d'un ou deux acteurs, bon, bah, c'est plutôt facile parce qu'il suffit de dire bah, « je ne veux pas dans mes films ». Autant effectivement aller jusqu'au cadreur ou à l'ingé son, ça va être très compliqué.
Donc, n'oublions pas que le premier je disais bon, la France reste quand même importante pour Canal+. N'oublions pas que le premier levier d'abonnement pour les abonnés oui. Canal+, ça reste le cinéma.
Ouais. Oui, oui. Donc si l'offre n'est pas là,
oui.
Y aura un souci d'abonnement chez
problème,
Canal+.
Un problème effectivement.
Tu vois une issue positive toi pour ce débat qui a enflammé la croisée.
Très sincèrement, c'est vraiment dur de ça. Oui, je pense qu'à un moment ça va se régler d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut aussi regarder les prochaines élections. Voilà, quand certains partis...
Oui, on est à un an tout pile de l'élection présidentielle.
Quand certains partis veulent remettre en cause le CNC, la privatisation du service public, etc. Donc je pense même qu'il y a des facteurs exogènes, de toute façon, qui vont venir alimenter cette discussion. Après, réconcilier le milieu du cinéma, entre guillemets, avec la sphère Bolloré, non, je pense que c'est deux mondes totalement différents. Enfin, en tout cas, si on regarde aujourd'hui l'expression des médias portés par le groupe Bolloré, et si on regarde le milieu du cinéma français...
Oui, on est sur deux lignes.
On est sur deux mondes qui sont totalement différents, qui ont réussi à cohabiter, en tout cas jusqu'à maintenant, ouais. avec Canal+. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut dissocier, combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas dissocier le groupe Canal+, mm-hmm. des médias Bolloré.
Ouais.
Est-ce que ça va tenir très longtemps? Bah, on le souhaite tous, en vrai.
Pas sûr, ouais.
Mais c'est très dur de se projeter. Je trouve que c'est très, très dur de se projeter.
On verra si ce sera une issue à la Grasset ou pas, si des gens vont partir d'eux-mêmes aussi en disant « je ne travaillerai plus avec Canal+ », ça peut être l'inverse. Pour l'instant, c'est Canal+ qui ne veut pas travailler avec les signataires.
Et oui, mais Grasset, c'est pas 40%
voilà,
de l'édition.
C'est pas pareil. Les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. Le cinéma, ça reste quand même beaucoup de millions qui sont brassés à chaque fois. Donc... l'argent, en général, ça ne favorise pas les bons comptes.
Et puis, c'est un équilibre... Pardon,
ça
reste un équilibre précaire. C'est notre fameuse exception culturelle française. Voilà, n'oublions pas que la France est quand même le pays, si on ramène ça à son nombre d'habitants, le plus dynamique dans le monde en termes de cinéma.
Ouais.
Ça, on le doit à notre système aujourd'hui, à la fois de la chronologie
médiatique,
du CNC, etc. Bon, il faut croiser les doigts.
Ouais, oui. On verra, mais ce...
Vas-y. Je me dis que le CNC va essayer de négocier avec Maxime Saada. Ils ne peuvent pas se passer de Canal+. Ils l'ont fait tout le temps avec la chronologie des médias. L'année dernière, Maxime Saada avait claqué la porte des négociations, disant que...
Comme d'hab, et il est revenu après.
Il est revenu.
Comme toujours.
Bon.
Mais c'est vrai que le président du CNC sur Inter, lundi matin, a déjà aussi essayé de faire redescendre un petit peu la température. Ouais.
Eh bien, affaire à suivre, donc on verra ça. Et on verra aussi, peut-être, ce sera l'objet d'une autre émission, si est-ce que le streaming ne peut pas sortir vainqueur de cette histoire, finalement. Est-ce que les bannis de Canal+, s'ils doivent le rester, ne vont pas aller se réfugier vers l'ancien ennemi du cinéma français, à savoir le streaming, qui est un financeur aussi, on ne le dit pas assez, mais qui finance
de plus en plus
voilà, chaque année, les films français, je crois à hauteur de 50 millions, il me semble, l'an dernier, quelque chose comme ça. Voilà, on verra ça dans un temps 2, ce sera l'épisode 2 de cette affaire. À suivre. Donc, nous, on va conclure avec les recos de la semaine sur une note un peu plus joyeuse. C'est parti. Chaque invité à carte blanche, vous le savez, chaque semaine, pour recommander un film, une série sur les plateformes de streaming qui lui a plu et qu'il voudrait que tout le monde voit parce que c'était tellement bien qu'il ne faudrait pas être le seul à l'avoir vu. Je vais commencer avec toi, Guillaume. On va partir sur Apple TV, une série que j'ai très envie de voir. Donc tu n'auras pas besoin de me convaincre, mais on va essayer de convaincre tous les spectateurs et auditeurs qui ne l'ont pas encore commencé. C'est la série Widow's Bay.
Tout à fait, donc diffusée sur Apple via Canal pour la histoire, mais c'est vrai.
Bah, Canal diffuse la plupart des plateformes de streaming.
Quasiment, oui, sauf Disney et Prime. Bref, non, alors série Apple, bah, comme d'hab, déjà, bon voilà, Apple, toujours gage de qualité, un petit peu comme HBO. Tant dans l'écriture que dans le scénario, la réalisation, avec des projets très originaux. J'avoue que j'ai regardé cette série. Bon, voilà, désolé, je m'occupe de Sens Critique. Je voyais des très, très bons retours parce que je n'avais pas identifié. Je ne comprenais même pas très bien le pitch. Puisque voilà, en gros, on est sur une petite île américaine, un petit peu abandonnée de tout, avec un maire qui va se battre, qui se bat vraiment pour faire exister son île. Qui est évidemment promis un avenir très triste, puisque là, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, ils n'ont même pas Internet, etc. Et donc, il veut créer un petit peu un engouement touristique en jouant justement sur ce côté un peu hors des sentiers battus, etc. Mais il est confronté, alors au début, à des choses qu'il ne veut pas croire, des espèces de phénomènes surnaturels, des légendes qui traîneraient dans cette île. Alors, il faut savoir qu'on en est qu'au quatrième épisode. D'ailleurs, c'est un des reproches que je fais à la série. J'en ai marre des séries diffusées en linéaire. Toi, tu fais bien d'attendre la fin, mais j'avoue que j'ai craqué, j'ai commencé à regarder. Après, voilà. Et en fait, toutes ces convictions vont être un peu, alors, enfin, vont être remises en cause. C'est drôle, le personnage est assez attachant. C'est à la fois drôle, un petit peu épouvante parfois. Ça fait un petit peu peur.
C'est un peu inquiétant, quoi.
Ouais. Et puis un petit fond aussi derrière de. Est-ce qu'il a intérêt, lui, à promouvoir son île et peut-être la sacrifier sur le tourisme ? Mais lui, à côté de ça, il veut donner un petit peu de croissance et d'économie. Les gens qui vivent sur cette île ne la quittent jamais, etc. Donc, il y a un mélange comme ça qui est hyper... Enfin,
jusqu'où faut-il faire rentrer la modernité, finalement, le 21e
siècle ? Exactement, et puis cet aspect... Il y a un équilibre, je trouve, qui est vraiment... Et d'ailleurs, j'ai oublié le nom de la créatrice de la série, pardon. C'est sa première série en tant que créatrice. Elle avait été scénariste de... J'ai que les trous de mémoire, bref. donc c'est marrant, c'est une vraie tentative. Ça, je trouve que ça dénote vachement dans le paysage. Et c'est hyper intéressant. Très grosse reco.
On va aller regarder Widow's Bay donc, sur Apple TV. Il y aura 10 épisodes, je ne sais plus, je crois 8 ou 10.
Je ne sais plus.
10, il me semble que j'ai regardé hier 10. C'est en cours de diff. Donc effectivement, si vous en avez marre comme Guillaume, des plateformes qui vous livrent un épisode par semaine... que vous êtes biberonné à l'école Netflix maintenant, attendez, faites comme moi. Voilà, attendez qu'il y en ait au moins 6, comme ça après vous vous lancez tranquillement et vous avez la fin. On va terminer avec ta reco à toi, Estelle. C'est un film, Ella McKay, qui est sorti sur Disney+, qui a une histoire de sortie un peu rocambolesque par ailleurs, puisqu'il vient de sortir au cinéma, je crois, mais que 2 jours.
Ouais, que ce week-end, le week-end dernier. Donc c'est déjà trop tard pour le voir.
Vous n'allez pas au cinéma pour le voir, c'est trop tard.
Mais par contre, sur Disney+. Ouais. Il est sorti en février dernier. Et du coup, ça s'appelle Ella McKay, mais c'est avec Emma McKay.
Ouais.
Petite subtilité.
À tel point que moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit un truc un peu méta, machin, mais pas du tout. Non, c'est un hasard.
Si, je pense... Oh non, okay. Je pense que c'est quand même.
C'est voulu, ok.
Je pense. Et du coup, c'est un film de James L. Brooks. Je ne sais pas si vous connaissez ce cinéaste américain qui a réalisé Tendre Passion, un film qui avait eu l'Oscar du meilleur film.
Ouais.
Qui a réalisé aussi Broadcast News ou Pour le pire et le meilleur.
Pour le meilleur, avec Jack Nicholson.
Ouais, c'est ça. C'est un grand cinéaste de comédie romantique.
Grand
populaire.
Auteur des Simpsons aussi.
Oui, créateur des Simpsons.
Ouais,
mais on ne connaît pas son nom. C'est assez particulier. Et là, il revient avec son dernier film. Il est assez âgé aussi, donc peut-être que c'est le tout dernier.
Le tout dernier, on ne sait pas.
Ah non, parce qu'il réalise le prochain Simpson.
Okay.
Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui réalise.
C'est lui qui réalise le prochain Simpson, ouais.
On va lui souhaiter de voir jusqu'à la sortie quand même. Ouais. Donc,
son nous, on l'a reçu, on a organisé une avant-première avec lui. Non, ça va être encore en forme.
Ok, bon, ça nous rassure. On verra peut-être autre chose. Et donc, du coup, que raconte ce Ella McKay, du coup ?
Bah oui, c'est un film sur les relations. Comme toujours chez Elle Brooks, c'est des situations entre les personnages, c'est des dialogues, c'est une quête du bonheur. Là, c'est Ella McKay qui va chercher à trouver un peu sa voie dans cette société, parfois un peu corrompue, un peu nulle. Et voilà, c'est une quête du bonheur, mais par le dialogue. Et c'est ça qui maîtrise tellement bien James L. Brooks, c'est des dialogues tellement, tellement précis, tellement bien faits, et c'est toujours bienveillant, c'est émouvant. Enfin, il sait travailler les relations entre les personnages, et ça, c'est quand même de plus en plus rare, je trouve. Donc je vous recommande chaudement ce film.
Et je vois les images qui défilent du coup derrière nous en plateau. Il y a un beau casting aussi, accessoirement.
Woody Harrelson, Ayo Edebiri, Jamie Lee Curtis et Emma McKay.
Voilà, c'est une bonne raison supplémentaire d'aller voir ce film. Et puis ça change, une petite reco. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une série de 10 épisodes qui va durer 10 semaines avec à chaque fois une heure, vous pouvez regarder juste un film sur les plateformes de streaming. On ne le dit pas assez, mais il y a aussi une belle offre de cinéma dessus. Merci beaucoup, Estelle, pour cette reco et pour cette super première dans l'émission. je rappelle qu'on peut te lire sur bfmtv.com tous les jours. Critique de films, actualités, analyses, etc. C'est ce que tu fais sur le site dans la maison. Voilà. Merci d'être venu. Et merci Guillaume, toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Je rappelle, si vous ne l'avez toujours pas fait, mais bon, ça commence à être un peu pénible de vous le rappeler, de télécharger l'application Sens Critique pour ceux qui ne l'ont pas fait. Elle a été refaite à neuf il y a peu de temps. C'est l'occasion effectivement d'aller dénicher des pépites comme Widow's Bay, justement, qui passeraient sous votre radar. Hop, vous voyez qu'elle remonte parce qu'il y a des super notes des quelques gens qui, eux, se sont lancés. et paf, vous vous lancez dans une super série, vous ne le regrettez pas. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été là. Et merci à vous de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés si vous étiez sur YouTube ou sur le site. Cette fois, si vous avez arrêté une partie de l'émission ou si vous avez envie d'écouter d'autres émissions qu'on a fait, elles sont toutes dispo en replay, en podcast, sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site de BFM Tech, sur YouTube évidemment. Foncez à regarder tout ça, on a fait plein de débats passionnants dernièrement. Et moi je vous dis bah, du coup à la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Non, pas la semaine prochaine parce que je prends des vacances, donc je vous dis pas la semaine prochaine, je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode suivant cette fois.